L'éjaculateur précoce, ça serait une sorte de pervers sadique qui veut inconsciemment priver l'autre de son plaisir. Oula. C'est juste un mec qui contrôle pas son périnée, tu vois.
Je m'appelle Gilbert Boujaoudet, je suis médecin sexologue depuis plus de 25 ans. Je t'assure, pendant plus de 10-15 ans, on m'a appelé zizilogue. Même les médecins, ils se disent, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire?
Un truc qui surprend que peu de gens savent sur moi, je voulais faire prêtre. À un moment, ça a merdé, j'ai fait sexologue. Tu vois,
je rêve de films porno où le mec, il a une panne, la fille qui lui dit c'est pas grave, il lui dit matin, ne me dis pas c'est pas grave, c'est encore pire. Puis après, il dépasse ça à deux et après, ils font l'amour et ils sont contents. Voilà. Je pense que beaucoup de mecs après cette phase.
Il faudrait que tu aies une fonction skip.
J'ai eu une consultation il y a pas longtemps comme ça, la pauvre, elle était assise, elle était persuadée d'avoir un problème. Il me dit, mais moi je sais que j'ai pas de problème parce que mon ex, elle jouissait quand je pénétrais. Elle, je la pénètre, elle ne jouit pas. Donc je vous la ramène, genre oui, il y a un truc à réparer, voilà.
En fait, c'est garagiste ton vrai métier. C'est ça.
En fait, j'aimerais bien qu'on aille en boîte échangiste. Oula, attends. Oui. Sushi, ça te va ce soir? Et boîte échangiste? Non?
Bon, ok, bon, on reste sur sushi alors.
Musclés, tous prennent de la testo, tous. On ne peut pas arriver à ce niveau-là en mangeant des avocats et des noix. Mais essayez de regarder la taille de leurs testicules dans les maillots, comme des pois chiches. Donc les trucs sur Internet, un des mystères pour les hommes, c'est l'orgasme féminin. Oubliez la phrase « comment faire jouir une femme ». C'est comment lui permettre de... C'est totalement différent.
Trop cool. Moi, je suis très content d'être avec toi.
Moi aussi. Ouais.
C'est un sujet dont je parle très peu sur la chaîne, mais qui, je trouve, hyper important. Logiquement, on est beaucoup et nombreux à avoir des sujets de sexualité.
Bah oui, normalement, ça concerne
beaucoup
un
de
grand
monde.
Nombre.
C'est souvent un sujet tabou. Je vois le peu de fois où je parle de sujets de sexualité, j'ai des gens qui m'écrivent en me disant « Merci, ça fait du bien, je me sens mieux, j'ai plus d'amour pour moi ». Ça nous est arrivé de faire des événements où, avec ma femme, on parle sur scène de mes challenges, les siens. Et pareil, c'est souvent un moment... Déjà, je mets souvent ce sujet-là le soir de séminaire parce qu'en fait, c'est le sujet qui attire l'attention de tout le monde. Je peux parler de...
C'est sûr.
Peu importe le niveau de fatigue, ils sont intéressés. Bref, je suis vraiment content de parler avec toi. Je trouve que c'est un sujet qui est passionnant. Donc, j'ai pas mal de questions
ça me
déjà.
Ça fait plaisir. Et d'ailleurs, tu dis que tu parles pas trop de sexualité sur ta chaîne. En fait, tu en parles sans en parler parce que tous les sujets...
Oui, corrélés, bien sûr.
Ben oui, la confiance en soi, le fait de savoir se laisser aller, le fait d'être à l'aise, le fait de sentir bien dans sa tête, dans son corps. Et c'est des sujets qui sont hyper importants pour la sexualité. Mais c'est vrai que des fois, on a besoin d'en parler de façon un peu plus directe, quoi.
C'est clair. Ouais. Du coup, pour quelqu'un qui te connaît pas, si tu peux te présenter rapidement.
Alors, je m'appelle Gilbert Boujaoudet. Je suis médecin sexologue depuis plus de 25 ans. J'ai une activité de consultation de médecine sexuelle. J'ai travaillé aussi dans les hôpitaux. Et j'ai récemment travaillé sur le développement d'une plateforme de téléconsultation de médecine sexuelle dont le but est de faciliter l'accès des personnes justement qui ont des problèmes sexuels à des professionnels, des médecins spécialisés dans le domaine, des médecins sexologues. Parce que je ne sais pas si tu le sais, à ton avis, il y a combien de médecins sexologues en France? Des médecins diplômés en médecine sexuelle.
J'aurais dit 10 000 comme ça.
Ouais. On est maximum 400.
Oh merde, waouh.
Pour toute la France.
C'est dingue.
Et donc, c'est une plateforme qui permet d'aider les personnes qui sont en difficulté d'avoir accès. Et en plus, il y a beaucoup d'enquêtes. Ça rejoint ce que tu disais au début, que c'est tabou. Toutes les enquêtes depuis plus de 20 ans montrent que sur une centaine d'hommes, par exemple, qui ont des problèmes sexuels et qui disent « j'aimerais de l'aide pour mes problèmes sexuels ». Sur une centaine, à ton avis, combien consultent vraiment?
Je sais pas, 3.
Ah, plus, quand même. Une vingtaine. 20%. C'était beaucoup moins avant. En fait, depuis l'arrivée des médicaments, le fameux Viagra, etc., ça a bougé un peu les choses. Mais même aujourd'hui, on sait que 80%, 75 à 80% selon les enquêtes, des personnes qui disent « j'ai besoin d'aide pour mes problèmes sexuels, en particulier sur le plan masculin », ben en fait, ils ne consultent pas, mais pas parce qu'ils n'ont pas envie de consulter, en fait.
Parce qu'ils ont honte ?
Ben, ils savent pas.
Ok.
Ils ont honte. On va me dire que c'est dans la tête. On va me dire qu'il n'y a pas de solution. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Et même plus que ça. Et c'est ce qui a fait qu'on a monté la plateforme. C'est-à-dire, on savait que la majorité des personnes qui ont besoin d'aide, on ne les voit pas, en fait, en ville. Et ça a facilité. Et plus que ça, on s'est rendu compte dans nos enquêtes que quand on fait une prescription, une ordonnance d'un médicament à visée sexuelle, il y avait une ordonnance sur deux qui n'était pas utilisée. Ou les mecs, ils prenaient l'ordonnance et ils se tapaient 20-30 bornes pour aller dans une pharmacie, en tout cas pas dans la pharmacie qui est dans le coin. Donc ça reste vraiment très très gênant, très tabou comme sujet, et je suis super content qu'on puisse en parler et puis lever quelques tabous, montrer que c'est C'est quelque chose de simple.
Je comprends clairement le côté tabou. On en parlera dans un autre épisode, mais en tout cas, moi, j'étais vraiment complexé par rapport à ma sexualité. C'est un truc que j'ai compris plus tard à quel point il y a plein de gens qui mytho. C'est-à-dire que moi, j'avais que des potes, j'avais que des potes autour de moi qui me racontaient leurs performances sexuelles et je me disais, putain, je suis.
Moi, toute la nuit.
Ah, mais bien sûr. Voilà, toutes les nuits, je suis allé en boîte de nuit, j'ai couché avec cette nana et moi, je me disais, je suis vraiment une grosse merde. C'est-à-dire et donc, c'est fascinant pour moi, effectivement, parce qu'à l'époque, j'étais pas du tout à l'aise à en parler à qui que ce soit. Et pour moi, j'étais persuadé qu'il y avait pas de solution. T'as un petit peu ce truc qu'il y a aussi sur le jeu de la confiance, il y en a qui sont confiants, d'autres non. Et donc, c'est vrai que ça a été un vrai processus pour apprendre à m'en libérer.
Et encore, toi, tu as pu travailler sur toi-même. D'ailleurs, tu dis beaucoup de mythos. Toujours en consultation, quand je dis à mes patients, en fait, vous savez votre problème, quelle est sa fréquence, par exemple, l'éjaculation précoce, etc. Et quand je dis les chiffres, je dis, c'est bizarre, il n'y a personne de mes copains. Je dis, tes copains, si ça se trouve, ils sont là aussi avec dans mes patients. Mais ils ne vont pas te le dire. De la même façon que toi, tu ne le dirais pas. Quoi.
C'est d'ailleurs un truc qui est fascinant, je trouve, qui est lié à ce sujet-là, mais sur plein de sujets. C'est assez dingue comment, quand tu es la première personne à oser parler d'un challenge, quel qu'il soit.
Dans un groupe comme ça.
Là, récemment, ma femme est tombée enceinte, on a eu un problème de... Il y a eu un diagnostic, bref, problème génétique, on a dû faire un IMG, là, il y a un mois. Et c'est assez dingue comment le fait d'en parler à des amis, plein de gens autour de moi, j'avais aucune idée qu'ils l'avaient vécu, en fait. Et ce sujet-là, c'est pareil sur la sexualité, où tu parles et d'un coup, t'as des gens qui disent « Ah ben, en fait, moi aussi, ça m'arrive. »
Et ça fait un bien fou, hein, rien qu'avec avec ça. Clair. D'ailleurs, tu disais ce mytho. Tu sais que les filles, entre elles, elles m'étonnent moins quand même sur la sexualité.
Ça ne m'étonne pas.
Ouais, les filles, elles sont un peu plus, objectives là-dessus. Les mecs, d'ailleurs, on en reparlera dans une autre interview, on a besoin de ce côté « j'ai performé », quoi. Les filles sont capables de dire « putain, c'était nul ». Le mec, il ne va jamais dire à ses potes le lendemain « putain, j'étais nul ».
C'est clair. Ouais. Non, c'est super transition. Ouais. C'est quoi une chose que peu d'hommes savent qui est très important pour une femme?
Je dirais la... En tout cas, la plus courante, je vais dire. La plus courante, parce qu'il y en a beaucoup. C'est la notion d'orgasme.
Okay.
Beaucoup d'hommes sont persuadés que pour faire jouir une femme, il faut une pénétration. Ils doivent faire jouir avec leur pénis, quoi. Ça, c'est un truc qui reste ancré. D'ailleurs, on voit même des hommes qui viennent consulter avec leur femme en disant « je vous l'amène parce qu'elle a un problème, elle jouit pas quand je pénètre ». Et je vous assure, c'est vrai.
C'est comme un périphérique, c'est comme un... Il marche pas le téléphone.
C'est ça. J'ai eu une consultation il y a pas longtemps comme ça, la pauvre, elle était assise, et elle était persuadée d'avoir un problème. Et il me dit, mais moi, je sais que j'ai pas de problème parce que mon ex, elle jouissait quand je pénétrais. Elle, je la pénètre, elle ne jouit pas. Donc, je vous la ramène, j'ai envie, il y a un truc à réparer, voilà.
En fait, c'est garagiste, ton vrai métier.
Électronique, alors on sort le tableau de bord, on discute avec. Et elle, je lui demande si toute seule elle jouit. Elle me dit oui. Mais comment vous jouissez? En fait, je me touche le clitoris, je me mets à plat ventre et je me touche le clitoris. Et vous le saviez, ça, monsieur? Oui, elle m'a dit, mais ça, c'est pas normal de jouir comme ça pendant les rapports sexuels, c'est par pénétration. En gros, elle lui avait donné le mode d'emploi. Mais lui, il l'a déchiré et dit non, moi, j'ai pas envie, quoi. Je veux faire fonctionner autrement. Donc, c'est un des trucs les plus courants. C'est que, d'ailleurs, je dis à tous mes patients qui parlent de ça, oubliez la phrase « comment faire jouir une femme ?» C'est « comment lui permettre de jouir avec moi ?» C'est totalement différent. C'est pas toi qui vas faire le job. Par contre, toi, tu vas découvrir comment elle fonctionne. Et plus tu sais comment elle fonctionne, plus tu vas lui permettre de jouir. C'est comme ça que tu peux la faire jouir. Pas quand tu regardes dans les films porno, on a l'impression que c'est en train de bosser, sérieux. Tu vois, allez, on y va, et on pénètre jusqu'à la jouissance. Et on est imprégné par cette idée-là. Un autre truc, toujours dans le même domaine, c'est puisque mon ex jouissait de cette façon, c'est que les filles jouissent de cette façon. Il y a des centaines et des centaines de façons de jouir. À chaque fois, c'est une nouvelle découverte, en fait, à faire. Donc, c'est un des trucs qui revient le plus chez les hommes, c'est... D'ailleurs, j'ai eu récemment un patient qui m'a dit, je vous consulte parce que ma copine jouit, mais je ne sais pas pourquoi. Tiens, c'est bizarre, ce truc. C'était en téléconsultation. Et il a pris le rendez-vous que pour ça. Il me dit, en fait, je ne sais pas pourquoi elle jouit. Je dis, mais comment ça, pourquoi elle jouit? Il me dit, mais en fait, il y a des fois, je fais plein de trucs pour qu'elle jouisse et elle a pas d'orgasme. Mais il y a des fois, on est en train de faire quelque chose et boum, elle jouit. Et puis, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et il se demandait ce qu'il faisait. Je dis, mais vous lui avez demandé? Oui, je lui ai demandé. Elle m'a dit que c'est elle, en fait. Il y a des fois, elle est bien, des fois, elle est pas bien. Mais en fait, c'était simplement que Et t'es tellement persuadé que c'est une sorte de bouton sur lequel il faut appuyer, quoi. Je fais ça, je fais ça, je fais ça, ça fonctionne. Et elle avait pas tenu compte que, bah, ce jour-là, elle était détendue, pas détendue, ou un truc. Mais c'est un des mystères pour les hommes, c'est l'orgasme féminin. C'est un des gros mystères. Et ce qu'on ne sait pas, nous, les hommes, c'est que d'une femme à une autre, ça change. Chez la même femme, d'une période de sa vie à une autre, ça change. Et qu'il y a plein d'organes qui sont impliqués dans l'orgasme féminin. Un truc simple qui a été fait récemment, on a demandé à des femmes pendant des rapports sexuels, on leur a dit, des femmes qui jouissent, qui disent, moi pendant le rapport, j'arrive à avoir un orgasme, par clitoris, pénétration, mélange de tout ça, peu importe. Et on leur dit, ok, très bien, les 10 prochains rapports sexuels que vous allez avoir, vous allez essayer de pas trop bouger, faire un peu la planche, quoi. Tout le reste, vous faites comme vous voulez, mais vous bougez pas trop. Vous restez assez statique.
Tu veux dire la femme qui bouge pas trop?
Voilà, elle ne bouge pas trop. C'est votre bassin, il bouge pas, votre ventre, vos jambes. Tout le reste, vous faites ce que vous voulez, mais la position que vous voulez, mais vous, vous bougez pas trop. Ben, le trois quarts n'arrivait plus à jouir. Simplement parce que ces petits mouvements, en fait, du bassin qu'elles avaient, ben, ça participait au fait qu'elles réussissent à jouir. Tu vois comment on est loin, loin, loin de l'idée de juste pénétrer et de faire des allers-retours pour la jouissance. C'est ce truc-là que beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes, malheureusement, n'ont pas d'infos sur. Il faut que je laisse faire, il faut que j'observe comment elle est en train de faire, il faut que je lui demande comment elle aime bien, il faut que je lui demande comment elle fait toute seule, etc., pour m'adapter à ça. Pas, j'ai un logiciel, quoi, il faut qu'elle...
Ce que tu dis, moi, ça me parle énormément, parce qu'en fait, c'est ce qui s'est passé avec ma femme, il y avait des trucs qui marchaient avec mes compagnes précédentes, et du coup, ça marchait pas, j'arrivais pas à comprendre, je me disais, est-ce que c'est moi qui ai un problème, est-ce que c'est elle qui a un problème, alors qu'en fait, c'est pas une question de problème, c'est une question d'utilité, et d'aller découvrir ce qui marche. Et nous, en tout cas, ce qui nous a aidé, c'est de libérer le dialogue. Au début, il y a une forme d'inconfort à parler de ça. Tiens, je vais faire ça. Ouais. Est-ce que quand je fais ça, ça te plaît plus? Parce qu'en fait, sinon, tu es un peu à l'aveugle, quoi. Alors que dès que tu commences à dialoguer,
le mot inconfort, nous, ça... t'as dit. Si tu me permets, j'aimerais insister dessus. C'est toujours un peu inconfortable et un peu gênant d'en parler, même dans les couples. Et heureusement, ça comporte une part de mystère. Ça comporte quelque chose d'un peu. Un peu différent des autres discussions. Donc, il faut pas attendre que ça soit totalement pas gênant et totalement confortable. Non, il faut dépasser ce petit cap de départ. Et je suis content que tu aies dit le terme un peu inconfortable, alors que tu peux discuter avec ta femme. Mais c'est vrai que c'est un sujet où, au début, c'est légèrement délicat. Mais ça doit pas être un obstacle pour en parler, justement.
Et moi, je sais que ce qui rendait le truc encore plus inconfortable, c'est la croyance profonde que si je suis un homme, je suis censé être performant.
Ouais.
Si je suis censé être performant, je suis pas censé demander à l'autre comment faire.
Exact. Parce que je dois le savoir.
Je suis censé être un king. Un king, il sait tout faire. Je suis pas censé demander. Donc non seulement c'était inconfortable parce que le sujet de la sexualité, il est inconfortable, mais en plus il y avait le
ça
rapport.
Ça te remettait en question.
Ça me remet en question en tant qu'homme. Et donc ces deux trucs, c'était lourd.
Alors que tu vois, quand on est réfléchi, dire oh, je dois savoir faire, ça fonctionnait avec mes ex, donc je vais le faire avec elle et c'est bizarre, ça fonctionne pas. On le ferait pas pour autre chose que le sexe.
Non, c'est clair.
Pour la bouffe, par exemple, te dis pas, putain, mon ex, elle adorait les pizzas, donc je vais manger des pizzas avec ma nouvelle copine. Non, tu sais pas trop. Bah, c'est la même chose au niveau sexuel, mais c'est vrai qu'on est conditionné comme ça sur plan sexe.
Oui, et effectivement, le porno, les films porno, il y a pas un arc narratif comme dans un film classique avec la personne qui galère, qui teste, qui communique. Il faudrait que la première demi-heure du film porno, le mec, il soit en galère et que du coup, il communique.
Et je rêve de films porno où le mec, il a une panne, la fille qui lui dit c'est pas grave, il lui dit matin, ne me dis pas c'est pas grave, c'est encore pire, tu vois, d'un truc comme ça. Puis après, ils dépassent ça à deux et après, ils font l'amour et ils sont contents. Voilà. T'imagines un film porno comme ça? Alors, je pense que beaucoup de mecs après cette phase.
Il faudrait que t'aies une fonction skip.
C'est ça, voilà. La phase to love love, là, c'est bon, on dégage.
Non, mais par oui, contre, on le voit pas, ça. Ouais. Ça serait drôle parce que c'est vraiment important. Du coup, je sais pas si dans ce sens-là, c'est plus ta spécialité, mais est-ce que dans l'autre sens, il y a des choses qui plaisent beaucoup aux hommes que peu de femmes savent?
Ah oui. Alors, on dit souvent aux mecs, putain, les mecs, apprenez à donner du plaisir sur la vulve, apprenez où est le clitoris, apprenez où sont les lèvres, qu'il faut toucher délicatement, qu'il faut toucher les lèvres, qu'il faut toucher pas que le clitoris. Le clitoris, faut toucher de façon différente. Par exemple, on peut faire des mouvements circulaires, des mouvements un peu plus appuyés, de haut en bas, de gauche en droite. Les filles reprochent beaucoup aux mecs d'être focalisées sur la pénétration. Et beaucoup, beaucoup, je dis bien beaucoup de mecs disent, La façon dont ma copine me touche, c'est pas vraiment comme j'aime bien. En fait, on a l'impression que sur le pénis, c'est une sorte de joystick et puis clac clac, ça doit fonctionner quoi. Et on oublie que oui, effectivement, la façon de toucher le pénis donne un plaisir différent d'un mec à un autre. Et ça, les filles très peu le savent. Pour les filles, c'est bah le mec du moment qu'on a stimulé le zizi, c'est bon quoi. Voilà, on a frotté un peu dessus, on a fait des mouvements d'aller-retour, on a fait une fellation, c'est bon. Ben non, d'un mec à un autre. Par exemple, il y a des mecs qui disent plein. Moi, si c'est stimulé de façon un peu langoureuse, ça va me donner plus de plaisir. D'autres disent, moi, si on stimule de façon plus forte, ça va me donner plus de plaisir. Il y a d'autres. Tiens, je viens de penser à un truc. T'as remarqué quand on parle de donner du plaisir, jouissance féminine, on parle de pénétration plus clitoris, stimuler. D'ailleurs, il y a plein de manuels pour expliquer aux femmes comment il faut jouir. Quoi. T'as déjà vu un manuel qui explique comment on fait jouir le mec?
Non, non, c'est clair, il y a une forme d'inconscient collectif que c'est évident, il n'y a qu'une façon de faire.
Ça fonctionne, voilà. Et pourtant, on sait par exemple que le fait de stimuler la peau des testicules en même temps qu'on stimule le pénis, bah, ça va donner un plaisir différent. Chez certains mecs, le fait de stimuler le frein ou le gland, ça peut être très sensible au sens négatif. Chez d'autres, ça va être très sensible au sens excitant. Pourtant, on n'en parle jamais. On voit beaucoup, beaucoup de manuels sur comment donner du plaisir, faire jouir une femme. J'ai jamais vu un manuel comment faire jouir un homme. C'est, on a l'impression que ça va de soi et que c'est quelque chose qui doit dérouler. Et effectivement, ça, les filles, ça fait partie des mythes que, bah oui, c'est bon, les mecs, on sait faire, quoi.
Et dans cette idée de créer un peu cette conversation, t'as des astuces. J'arrive à imaginer quelqu'un qui nous écoute, là, et qui se dit, non, en fait, ça me parle vraiment. Je me rends compte que j'en sais pas assez sur mon compagnon, ma compagne. J'ai envie d'en parler, mais c'est très inconfortable.
Ouais.
Est-ce que tu as des astuces
pour dépasser ça,
Au moins au minimum, qui le rendent un peu plus confortable?
Alors, il y a deux trucs déjà à garder en tête quand on va en parler. Premièrement, on le fait jamais quand on n'est pas bien. Comme beaucoup de choses d'ailleurs qu'on dit, c'est quand on est fâché, pas bien, frustré, etc., on va dire des conneries. Et on va regretter. Et la connerie qu'on a dite, on va mettre des mois et des mois à la rattraper. Donc, toujours à un moment où on est bien. Deuxièmement, on ne dit pas ce qui ne va pas. On dit ce qu'on aime d'abord. Pourquoi?
Quand t'as fait ça, j'ai trouvé que c'était top.
En fait, sexuellement, par exemple, à un moment où vous êtes en train de discuter de choses intimes, tiens, comment on se voit où dans X temps, démarrer une discussion là-dessus, ah, j'ai envie ce week-end qu'on aille manger à tel endroit, ou j'ai envie qu'on aille se balader. Ça amène déjà sur quelque chose d'intime. Et ensuite, ah, j'adore, au fait, il y a quelques jours, quand on a fait l'amour, quand t'as fait ça, j'ai vraiment kiffé, c'était top. Et laisser l'autre réagir dessus. Et puis partir de ça, partir du fait qu'on est en train de dire une sorte de compliment ou une sorte de chose positive, et ensuite enchaîner sur « Ah, j'aimerais bien que tu me le fasses plus, ça. »
Plus ou différemment.
C'est ça.
Et finalement, si on résume, ce serait en trois étapes, c'est créer un contexte dans lequel c'est plus facile, organiser un rendez-vous en amoureux le week-end, et donc on va...
Ça peut être après avoir fait l'amour, ou ça s'est bien passé, et dire « J'ai adoré ce que tu m'as fait là, j'ai adoré ce que tu m'as fait là. »
Par exemple, créer le contexte.
Et ensuite, valoriser positivement.
Valoriser ce qui fonctionne déjà. Et trois, du coup, de...
D'enchaîner ce qui fonctionne. C'est-à-dire de partir de ce qui fonctionne et dire...
Pour aller vers ce qu'on voudrait. Voilà,
tu sais, quand tu fais ça, par exemple, quand tu me caresses de cette façon, j'adore, c'est vraiment, vraiment trop top. On n'a même plus besoin de dire, j'aime pas que tu me caresses de cette façon. Parce que l'autre personne, elle va dire, ah tiens, il adore que je le caresse comme ça, donc je vais le faire comme ça. On n'a même plus besoin de dire, arrête de faire ça.
Non, c'est clair. En plus, c'est difficile d'arrêter quelque chose. Beaucoup plus facile de focaliser sur ce qu'on veut mettre en place.
Il y a un autre conseil, c'est dites ces choses-là assez rapidement. N'attendez pas des mois et des mois. Il y a deux raisons.
C'est sûr qu'après 8 ans à faire semblant que c'est génial, en disant en fait j'ai un truc à dire,
ça fait 8 ans. Tu me saoules. Non, c'est violent. Et puis même pour vous, vous ne serez pas épanoui pendant des mois et des mois. Ouais. Et plus le temps passe, plus ça sera difficile à dire parce que justement, on se dit mais comment je vais lui dire que ça fait un an que j'aime pas ce truc-là? Mais non, on aurait dû le dire quand même un peu plus tôt. Et c'est pour ça que je conseille que quand il y a un truc vraiment qui nous déplaît, ça faut pas traîner à le dire. Des choses qui nous ne déplaisent pas, mais qu'on aimerait développer, qu'on aimerait faire autrement, ça c'est pas grave. Si on met du temps à dire, ah, j'aimerais qu'on essaye telle chose, c'est pas trop grave. Mais un truc qui nous déplaît et attendre des mois et des mois, bah, plus on va attendre, plus ça va être galère d'en parler.
J'espère que t'apprécies cette conversation autant que moi. Je trouve que le thème de la sexualité, c'est quelque chose de central. J'en ai beaucoup souffert et j'avais aucune idée qu'on pouvait résoudre les problématiques qu'on vit ou tout simplement améliorer notre sexualité. Si c'est un thème qui t'intéresse, on est d'ailleurs en train de réfléchir à créer une formation sur le sujet pour pouvoir t'aider sur les sujets qui comptent pour toi. En cliquant sur le lien qui apparaît juste au-dessus, tu peux remplir un petit sondage, c'est très rapide, pour nous dire comment on pourrait t'aider idéalement et ce qui est important pour toi. En remplissant le sondage, non seulement t'augmentes les chances qu'on crée un truc qui soit sur mesure pour toi, qui va vraiment t'aider et que tu vas kiffer, mais aussi, on enverra un code de réduction spécial pour toutes les personnes qui ont rempli le sondage le jour où on crée quelque chose sur le sujet de la sexualité. Donc t'as juste à cliquer en haut sur le lien qui apparaît ou dans la description, tu peux aussi retrouver le lien et on reprend cette conversation.
Dans les personnes que t'as dû voir, il y a des personnes qui ont certainement des fantasmes qui sont différents.
Ouais, beaucoup. Toujours.
et du coup, qu'est-ce que tu conseilles par rapport à ça? Parce que j'arriverais à imaginer une personne qui est honte d'un fantasme qu'elle a et dire si j'en parle à ma compagne ou mon compagnon,
ça va bloquer,
ça va être bizarre. Ouais. Sans aller dans les extrêmes, du coup.
Alors, il y a des fantasmes très courants que, par exemple, des hommes ont envie de faire mais n'osent pas en parler avec leur partenaire ou le font d'une façon tellement maladroite.
C'est quoi, par exemple, les fantasmes courants?
Les trucs les plus courants que les hommes disent « j'aimerais faire ça, mais je ne suis pas sûr qu'elle voudrait », c'est la sodomie. Ça, c'est le truc qui revient le plus. À deux, enfin à trois, du coup, ouais. en trio. Boîte échangiste.
Okay.
Le reste, c'est assez mélangé, mais c'est les trucs qui reviennent le plus. Et chez les filles, tu as des fantasmes du genre être attaché ou attaché.
Dans le sens
attaché l'autre, par exemple, ou être attaché à elle-même.
Oui, je comprends.
Pas attachement affectif. Hein. Les menottes, hein, carrément.
Okay.
Ou que ça soit à l'extérieur, par exemple, en prenant le risque dans une ruelle, des choses de ce genre.
Et plus c'est vrai plus le côté interdit, en fait.
Oui, il y a quelque chose de ce type-là. En tout cas, excitation de circonstance, pas forcément l'acte. En lui-même. Ouais. Il y a par exemple, alors ça, c'est pas qu'un fantasme, c'est pour elle, beaucoup de filles qui disent « j'adorerais utiliser des sextoys en plus pendant les rapports sexuels », mais n'osent pas le dire au mec.
Sextoy du type ?
Vibreur.
Ok.
À ton avis, pourquoi elle n'ose pas le dire au mec ?
Non, c'est clair, parce qu'il y a plein de mecs qui se diraient « c'est que je suis pas performant
ouais. ». Je lui suffis pas, il lui faut un appareil.
J'ai le truc ultime, qu'est-ce que tu me fais chier ?
C'est ça. Alors que, par exemple, si le mec a fait à manger et qu'elle, elle dit « ah, passe-moi un peu le poivre, je vais rajouter un peu. » Jamais il va dire hey, « qu'est-ce que tu crois, je ne sais pas faire à manger ou quoi ?» C'est la même chose pourtant, mais bon, sexuellement, ça prend toujours une ampleur. Et donc, là aussi, le conseil que je donne quand on veut évoquer ces fantasmes-là, c'est d'abord installer une ambiance où on parle de sexualité. Si dans le couple, on n'a pas l'habitude d'échanger sur la sexualité et tout d'un coup lui dire « en fait, j'aimerais bien qu'on aille en boîte échanger tout là, attends. Je savais même pas que
c'était... » Entre deux phrases, il faut le dire. Voilà, en fait, c'est ça, il faut parler d'autre chose.
Au café, ouais. C'est ça. Sushi, ça te va ce soir? Et boîte échangiste? Non? Bon, ok, bah, on reste sur sushi alors. Donc déjà, installer une ambiance où on parle de sexualité dans le couple pour pouvoir placer ce sujet un peu délicat. Et ensuite, et c'est ça, j'y tiens beaucoup, toujours donner cette sensation, et même vous, mettez-vous dans cet état d'esprit, je veux pas le faire parce que c'est le truc qui m'intéresse. Je veux le faire parce que avec elle, ça m'intéresse, ou avec lui, ça m'intéresse. Exactement comme si
c'est ouais, c'est un partage, du coup, c'est une expérience à deux.
Ça donne envie au moins à l'autre de... Comme si tu dis à ta femme, j'ai trop envie d'aller visiter Rome. Ah, j'ai envie, il faut qu'on y aille, il faut qu'on y aille, il faut qu'on y aille, il faut qu'on y aille. Un jour, elle va dire, bah, viens, on va aller à Rome. Et que pendant que tu visites Rome, tu parles que de ça, que de la ville. Putain, c'est beau, c'est génial et tout. C'est pas pareil que de lui dire, qu'est-ce que j'adorerais aller à Rome avec toi. Putain, j'adorerais partager ce truc avec toi. Ah, viens, j'ai vu un truc, je sais que t'adores prendre un café l'après-midi, il y a un super café, viens, on va aller prendre un café à tel endroit. Ben, on a visité Rome, mais dans une ambiance totalement différente. C'est exactement pareil sur le sexe, quand on fait un truc, de faire sentir à la personne que c'est le plaisir de partager ça avec, et pas juste, ben, j'ai eu mon kiff, merci de l'avoir fait, quoi. Donc, toujours rester dans cette idée de... Et d'ailleurs, si vous avez l'impression que... Mais en fait, elle est en vrai docteur, je m'en fous qu'elle kiffe ou pas. Moi, j'ai juste envie de le faire. Ben là, on se rend compte qu'il y a un problème. Et on peut comprendre que l'autre en face...
Oui, il ne soit pas réceptif.
Voilà. Même si on a envie de le faire, ben, j'ai pas envie de le faire juste comme ça parce que l'autre a envie, quoi.
J'arrive à imaginer qu'une des pressions, c'est... Enfin, qu'une des dichotomies dans la tête de la personne, c'est « je ne devrais pas avoir ces fantasmes-là ». Une forme de je dois les supprimer.
Et en face, est-ce que c'est normal qu'il ait ces fantasmes-là ou qu'elle ait ces fantasmes-là
et la peur de casser quelque chose si j'en parle, par exemple.
Oui, ça c'est vrai. C'est par exemple pour les filles, beaucoup disent si je parle de mes fantasmes, est-ce qu'il va continuer à me voir pareil.
Voilà.
Alors que je donne de moi l'image de quelqu'un on va dire, sympa, gentil, qui gère, etc. Est-ce qu'il va pas me voir de façon un peu délurée? Et malheureusement, je parle d'abord des filles parce que de nos jours, malheureusement, une fille qui est libérée sur plan sexuel, malheureusement, c'est trop vite considéré comme une fille moins bien. Comme si on ne peut pas être libéré sexuellement.
Une forme de cliché un peu prude, quoi. C'est ça, voilà. Dans ce sens-là?
C'est ça. Okay. C'est, d'ailleurs, je trouve que beaucoup de filles sont un peu, entre guillemets, perdantes. C'est-à-dire, soit elles sont prudes et on les traite de coincées, soit elles sont libérées et on va plutôt les traiter, pardonnez-moi du terme, hein, ça va être salope, etc. Comme
ça a changé quand même, je pense, dans ces dernières...
Ça bouge, ça change, mais beaucoup de filles vivent cette pression de ça. Ouais. Donc, ça peut freiner à le dire. Et puis, des fois, on se dit, mais... Est-ce que c'est un fantasme normal ou est-ce qu'il va pas ou elle va pas dire tiens c'est pathologique ce truc-là ouais. Parce qu'on sait pas comment l'autre va l'accueillir.
Et tu considères qu'il y a des par exemple quelqu'un qui aurait un fantasme avec les animaux, est-ce que c'est pathologique pour toi?
C'est classé pathologique de nos jours de la même façon qu'avec par exemple des cadavres etc. C'est classé dans les paraphilies. La raison est que on considère que en face tu peux pas avoir de consentement. Donc, tu vas pas élever un chien et l'aider à ce qu'il soit consentant à des relations sexuelles. D'ailleurs, il y a des associations de défense des animaux.
D'accord, j'avais...
Ah oui, et comment tu veux être sûr que tu fais pas du tort à cet animal? Et puis même, parce que tu vois, j'ai même pas parlé du fait qu'avec un animal. J'ai parlé du bien-être parce qu'il y a une chose à laquelle on tient toujours en sexualité. D'ailleurs, tu sais comment on considère si quelqu'un est normal sexuellement ou pas? S'il est en bonne santé sexuelle ou pas, s'il y a des critères. Par exemple, en bonne santé générale, si tu fais pas de fièvre, t'as pas de douleur, t'as un bon appétit, t'es pas fatigué, etc. On va dire que t'es en bonne santé générale, quoi. En santé sexuelle, on a cherché. On a creusé, on se dit, mais comment on peut savoir si quelqu'un est bien ou pas, en fait? La fréquence des rapports sexuels, mauvais critère. Plaisir, jouissance, capacité à obtenir de l'orgasme, etc. Très mauvais critère. En fait, le critère qui est retenu, c'est satisfaction.
Personnel, donc.
Moi, je suis bien. La personne avec qui je suis bien comme ça. Donc, on est bien sexuellement. Peu importe ce qu'on fait, on est satisfait sexuellement. Donc, quand on aide quelqu'un à aller bien sur le plan sexuel, on l'aide pas à atteindre un objectif du genre « faut que tu fasses l'amour 2,2 fois par semaine ». Je dis 2,2 parce que c'est la statistique moyenne. C'est quoi le rapport? Combien de fois il faut faire l'amour par semaine? Est-ce que je fais suffisamment, etc.? Ben, c'est 2,2 par semaine, la moyenne.
Mais est-ce qu'il y aurait un nombre qui est vraiment pas assez, qui est prouvé?
En dessous, on est insatisfait?
Oui, est-ce qu'il y aurait un nombre de rapports sexuels qui serait vraiment trop bas?
Non. Parce que c'est plutôt la façon dont on le vit. Par exemple, on peut faire l'amour 10 fois par semaine et être frustré. Parce qu'on a l'impression qu'il y a un truc qui va pas, l'autre n'est pas sur la même longueur d'onde, on a une hyperlibido. Comme on peut faire l'amour une fois par mois et être hyper satisfait simplement parce qu'on est conscient qu'on a un rythme de vie qui fait qu'on n'a pas pu faire l'amour autrement et que c'est là qu'on s'est retrouvé. D'ailleurs, tu sais les stats là, 2,2 par semaine. En fait, c'est jamais deux fois par semaine. C'est par exemple pendant deux semaines, il n'y a pas eu de rapport sexuel. Puis pendant un week-end, il y a eu deux, trois rapports sexuels. Et puis ensuite, pas de rapport sexuel pendant 2-3 semaines. Puis on part en vacances une semaine et là, on fait l'amour tous les jours. Et puis on revient, puis on fait une moyenne. En fait, c'est ça, les moyennes. Mais il n'y a pas de minimum en dessous duquel on dit que, attention, en dessous de ça, ça va poser problème, quoi.
Ok, je comprends. Très intéressant. Bon, il y aurait plein de questions encore à creuser sur les fantasmes. Je trouve ça intéressant.
Non, on fera un de ces jours un truc sur les fantasmes parce que c'est vrai que c'est rarement abordé. Et tu sais que c'était le sujet de mon mémoire de première année de sexologie? J'avais oublié ça, c'est vieux, ça remonte. J'ai mon premier mémoire en sexologie, c'était sur les fantasmes, donc on pourra un jour.
Ouais, ce que je trouve que c'est ben, comme plein de sujets sur la sexualité, il y a ce côté pas évident d'en parler, de savoir comment le gérer. Justement, comment la personne qui le reçoit, tu prenais l'exemple du fantasme masculin d'avoir un rapport à trois, une femme qui entend ça de son mari ou de son compagnon, qu'est-ce qu'elle a en fait de ce désir-là? Ce qu'elle peut se dire.
Souvent, le coup de bol, c'est quand la personne dit « Ah bah, J'avais la même envie.
c'est le loto, non?
Mais c'est pas possible. Mais c'est incroyable, on est sur la même longueur d'onde.
Justement, j'allais t'en parler.
D'ailleurs, puisque t'en parles, j'ai prévu, voilà. Ça peut arriver, mais c'est rare. En général, il y a une première réaction, c'est aussi un peu surprenant des fois. Et je dis toujours quand on l'annonce, laissez le temps à l'autre d'encaisser. Ne lui dites pas, faut que tu me donnes une réponse là dans les 5 minutes. Laissez-lui le temps un peu de digérer le truc, de dire est-ce que j'aime pas, ben on verra, je sais pas trop. Et souvent on voit une progression, c'est-à-dire au début c'est non, vas-y, j'aime pas, ah non, lâche-moi avec ça. Puis on en reparle un peu plus tard, c'est mais non, vas-y, j'ai pas envie. Et puis la personne est réfléchie, bah, tu sais, je peux, pourquoi pas un jour, mais laisse-moi un peu de temps, pas maintenant. Souvent c'est un peu progressif. Et ce qui permet d'aller jusqu'à le réaliser, c'est vraiment le fait de sentir qu'elle est en sécurité. Par exemple, en psychologie, c'est un concept connu, en coaching aussi. Quand on donne la possibilité à une personne de dire non à tout moment, elle peut dire oui plus facilement.
C'est clair.
Toujours. Et donc, le fait de lui dire, écoute, on peut le faire, à n'importe quel moment, si un truc ne va pas, tu me dis et on arrête. C'est pas pareil que, bah, t'as dit oui, pourquoi tu continues pas?
Ouais. Parce que là, tu te sens piégé.
Voilà, on s'est piégé. Et là, on est sûr que toute autre chose qu'on va faire, ça va être mort pour la suite. Et toujours cette idée que c'est parce que c'est elle que j'ai envie d'essayer. Ou parce que c'est lui que j'ai envie d'essayer, pas juste le fantasme en lui-même. De se mettre dans cet état d'esprit-là et de donner toujours le choix à l'autre. Mais laisser le temps que ça mûrisse en face, quoi.
D'ailleurs, est-ce que tu observes, parce qu'il y a un paradoxe des fois qui me fascine avec l'humain, c'est... qui a pas que dans la sexualité, même sur l'argent, sur plein de choses. Est-ce que tu observes que parfois, parce que la personne vit son fantasme, du coup, ça lui permet de s'en libérer? Dans le oui. sens qu'en fait, elle se rend compte que c'était surtout dans sa tête que c'était génial et qu'au final, c'est pas...
Il y a les deux. C'est-à-dire, des fois, le fait de le vivre, tellement content de l'avoir vécu qu'on a envie de recommencer. Et des fois, on le vit, on dit, ah, c'était que ça, en fait. Ouais. Et on se rend compte qu'on avait un fantasme, pas parce qu'on avait envie, mais parce que, par exemple, plein de potes on dit qu'ils ont fait ça ou elles ont fait ça et c'était génial. On se dit, bon, on va l'essayer. Ça a l'air d'être génial, ce truc-là, c'est un fantasme. Et puis quand on l'essaie, on dit, ben, en fait, c'est pas pour moi, quoi. Les deux sont possibles.
Super intéressant. Parlons on reviendra sur la notion d'éjaculation précoce, je trouve ça intéressant. Sur la partie testostérone, comment on peut développer pour un homme sa testostérone?
C'est un sujet qui est grandissant ces dernières années.
Et surtout, on parlera aussi de qu'est-ce que tu penses de tous les traitements qu'il y a aux États-Unis là qui sont en train de se prendre.
Énorme vague qui nous arrive. Alors, la testostérone, petit rappel, c'est une hormone qui est sécrétée naturellement dans notre corps. Pour info, c'est sécrété chez les femmes et chez les hommes.
Ouais.
Et c'est l'hormone sexuelle principale. Pas la seule, mais c'est une hormone sexuelle principale. D'ailleurs, chez la femme aussi. Le déficit en testostérone chez l'homme peut donner des problèmes sexuels et chez la femme aussi.
Un déficit aussi peut entraîner des problèmes.
Par exemple, quand une femme est ménopausée, les sécrétions de testostérone se cassent la gueule, chutent, et c'est ça qui donne les troubles de libido, c'est pas les hormones féminines.
Ok.
Et d'ailleurs, beaucoup de gens ignorent que... on dit toujours que la femme a moins de testostérone que l'homme, mais en fait, elle a plus de testostérone que d'oestrogène, que d'hormones féminines, puisque c'est à partir de la testostérone que l'oestrogène est fabriqué. Donc, bref, c'est une hormone sexuelle importante.
Elle a moins de testostérone, mais elle a quand même plus de testostérone que d'estrogène.
Exact. Elle a moins de testostérone. Elle a 10 à 12 fois moins de testostérone que l'homme, mais elle a quand même 2 fois plus de testostérone que d'hormones féminines. Donc, on dit toujours que la femme a peu de testostérone. C'est peu par rapport à l'homme, pas par rapport à ce que son corps a besoin.
Ouais, je comprends. C'est intéressant.
Donc, c'est une hormone sexuelle, mais c'est pas que sexuelle. Elle participe aussi sur l'état de forme général. Les muscles, l'énergie, l'élan. Elle participe aussi au côté leader, un peu spontané. Tiens, je te donne un exemple sur cet effet-là. J'ai eu un patient que j'ai suivi pour troubles de libido, asthénie, etc. On s'est rendu compte qu'il y avait un vrai déficit en testostérone. On l'a corrigé, traitement. Il a vu les oreillons dans l'enfance et ça a abîmé ses testicules. Donc, traitement par testostérone.
Et donc, lui, il a besoin d'un traitement à vie.
Lui, à vie. C'est abîmé et à vie, il a besoin de testostérone.
Et juste pour comprendre, dans beaucoup de cas, par exemple, si tu prends des traitements plus de l'ordre psy, dépression, etc., tu as une forme d'accoutumance et du coup, finalement, c'est un peu comme tu prends de l'alcool tous les jours, au bout d'un moment, ça te
le
moins d'effet. Est-ce qu'il y a le même effet sur la testostérone?
Sur la testostérone, si on en a besoin et on en prend, le corps va l'utiliser. Donc, il n'y a pas d'accoutumance. C'est une hormone qui est naturellement présente dans notre corps.
OK.
Le corps en a besoin. Par contre, il y a des situations où on sait qu'on en a besoin à vie et d'autres situations où on sait que ça risque d'être 1 an, 2 ans, le temps de relancer une, ou quelques mois parfois, le temps de relancer une mécanique, par exemple, le temps de perdre du poids, etc. Ça arrive que ça soit transitoire. Mais on évite au maximum de mettre de façon transitoire que quand on en a besoin. Mais je veux te donner un exemple sur ce que je disais, l'impact de la libido, de la testostérone au-delà de la sexualité. Ce monsieur, donc il a le traitement, et il me dit, docteur, il y a un truc bizarre. Est-ce que ça se voit sur nous qu'on est performant sexuellement? Parce que depuis son traitement, il est redevenu normal. Pour info, quand on prend de la testostérone qu'on en manque, c'est pas pour devenir super performant. C'est pour être normal. Donc, il est redevenu normal. Alors qu'avant, libido râlait pas crête, les érections étaient pas là. Enfin bref, il y avait plus rien qui fonctionnait. Il me dit, est-ce que ça se voit que je suis redevenu, entre guillemets, efficace sexuellement? Je dis, bah, non, on peut pas deviner ça comme ça. Pourquoi? Il me dit, ben, en fait, je travaille dans un magasin, dans un centre commercial, et à côté, il y a un autre magasin. Il me dit, ça faisait 2 ans que j'ai flashé sur la nana qui travaille dans le magasin à côté. Et régulièrement, je la croisais, je l'invitais à boire un café ou à manger ensemble, et elle déclinait. Là, ça fait 2-3 mois que je prends mon traitement testo, je l'ai invitée, elle a accepté.
Est-ce que tu dégages plus de confiance, c'est ça?
Parce qu'il dégage déjà une attitude, une allure, et la façon, je lui dis, mais comment tu lui avais demandé? En fait, la première fois, il lui demandait, les premières fois,
les yeux vers
le
bas.
Si tu as le temps, est-ce que ça te dérangerait? Enfin, on pourrait prendre un café, moi j'ai 5 minutes, mais bon, c'est sans vouloir te presser, quoi. Elle disait, c'est gentil, mais non, merci. Et la fois où elle a accepté, en fait, il lui a dit, ah, bonjour, ça va, ça me ferait trop plaisir, viens, j'ai envie de prendre un café, viens, on en prend un à deux.
Il était plus en lead.
En fait, il était un peu plus présent. Ça a donné quelque chose de plus, plus positif, plus rassurant. Ça joue sur les os, etc., etc.
Mais du coup, quelqu'un comme ça qui en prend à vie, il va pouvoir prendre la même dose à vie. Il n'y a pas besoin qu'il en prenne plus.
La dose, elle va être constante sur une longue période. Par contre, évidemment, on va l'adapter à l'âge.
Oui.
Parce que c'est normal qu'elle diminue. Mais c'est, oui, il n'y a pas besoin d'augmenter. D'ailleurs, il n'y a qu'un dosage en général du traitement. Et on adapte plutôt à la prise de sang. Par contre, il peut en avoir besoin plus dans des périodes où il n'a pas fait de sport, il a pris du poids, etc. On a besoin d'augmenter un peu plus la testo. Des périodes où il a pris soin de lui, bah, il va pouvoir baisser la testo. En fait, on l'adapte de la même façon que le corps adapte sa testostérone.
Et c'est quoi? C'est via une, enfin, c'est une seringue?
Il y a trois façons. Les gélules, ça, je conseille à tout le monde d'oublier. D'ailleurs, c'est très vendu sur Internet.
Ouais.
Ça marche pas. Okay. C'est pas terrible. Ça peut bloquer d'ailleurs le fonctionnement naturel, ça peut abîmer le foie. Les gélules, ça, on oublie.
Ouais.
C'est soit en injection intramusculaire, piqûre dans les fesses, dans la cuisse, les deltoïdes, soit en crème. Et c'est la forme qu'on aime le plus, nous médecins, en crème, parce que ça donne les taux les plus stables, en fait.
Tu le mets où, la crème?
Sur la cuisse ou sur le ventre. C'est une large zone de crème à appliquer.
C'est dingue.
C'est comme...
Et comment ça marche?
Comme les femmes qui sont ménopausées, qui mettent une crème.
Bah, les femmes... Et ça va dans le sang, comment ça fait?
Oui, en fait, ça traverse la peau. Sous la peau, on a tous une petite couche de graisse, même quand on est sec.
Ouais.
On a toujours une petite couche de graisse. Et à partir de cette couche de graisse, ça part dans les petits vaisseaux sanguins et ça part dans le corps.
Incroyable. Et ça, c'est une crème que tu mets tous les combien de temps?
Tous les matins.
Ok.
C'est une crème à mettre tous les matins.
Et c'est quoi, on va dire, les inconvénients, en fait, d'un traitement comme ça?
Les inconvénients, c'est quand il est non nécessaire et malmené. C'est-à-dire... Je suis fatigué, j'ai des problèmes de libido, etc. Je vais demander un traitement par testostérone. Alors, en France, personne ne vous le pressera s'il n'y a pas le diagnostic, les prises de sang, mais dans d'autres pays, oui. Sauf que si ça se trouve, c'est juste des primes. C'est pas un manque de testo. Si ça se trouve, c'est parce que tu as fumé beaucoup, tu as beaucoup de tabac qui est en train de te donner ces problèmes-là. C'est pas la
Tu veux dire que dans certains pays, c'est une forme de facilité à je suis pas bien, oui, demande la testo, quoi.
Ouais, j'ai 40 ans, je commence à fatiguer un peu, ou je fais du sport, je sens que je suis fatigué après les séances, vous pouvez pas me donner un peu de testo. Et il y a des pays, malheureusement, où les médecins accèdent à la demande. Ça, c'est pas bon. Ça va créer une forme d'accoutumance.
Oui.
Simplement parce qu'on va s'habituer à être surperformant. C'était normal d'être fatigué dans cette période-là.
Ouais.
C'était normal d'être pas bien parce que je suis en burn-out. Bah, je prends de la testo et puis je vais me sentir un peu en super forme. Plus jamais je vais supporter les situations où je suis pas bien.
C'est comme si je prenais de la coke tous les matins. Quoi.
Et après, il va falloir performer sans la coke. Le normal devient anormal. Donc ça, c'est un inconvénient. Les autres inconvénients, c'est quand c'est
parce que là, la testostérone passerait au-delà d'un seuil de normal.
Ouais. Là, on est dans le dopage, en fait. On est typiquement dopé.
Alors, encore une fois, je vais peut-être dire un truc qui est complètement stupide, parce que j'ai pas pris le temps de creuser le sujet. j'avais entendu qu'il y avait des entrepreneurs, je sais plus si c'est type Jeff Bezos ou d'autres personnes, qui prenaient, alors qui ont pas en soi un problème de fertilité ou de testostérone de base, mais prenaient une, un peu plus de testostérone, un peu de testostérone, justement pour ce côté alpha, masculin, leadership.
Toi, t'en penses quoi, ça a des conséquences, c'est-à-dire à partir du moment où on commence à le faire, alors qu'on n'en avait pas besoin avant, en fait, on ne pourra plus l'arrêter après. La raison est la suivante, c'est que quand tu donnes à ton corps de la testostérone, on a une glande qui s'appelle l'hypophyse qui dirige en fait les hormones dans notre corps. En gros, le cerveau et la glande va repérer que j'ai trop de testo là.
Donc il va arrêter d'en produire.
Donc il va arrêter de produire sa propre testo parce qu'il y a trop de testo dans le corps. Le jour où j'arrête le traitement, bah, mon corps il va mettre un an ou deux ans avant de se relancer naturellement.
Ça, c'est le problème des mecs qui font de l'haltérophilie.
Exact. Okay. C'est le problème des gens qui vont se doper avec ça alors qu'ils n'en ont pas besoin. Et pour info, quand on prend de la testostérone, comme l'hypophyse dit aux testicules, hey, « Eh les gars, arrêtez de fabriquer, il y a trop là, il y a trop. Arrêtez de vous de fabriquer de la testo. » En même temps, ils arrêtent de fabriquer des spermatozoïdes. C'est pour ça que les gens qui font beaucoup de musculation, alors, si vous avez envie d'aller regarder des photos de mecs, mais vraiment les gros musclés, tous prennent de la testo, tous. On ne peut pas arriver à ce niveau-là en mangeant des avocats et des noix. Encore moins du persil. Voilà. Tu peux bouffer des œufs autant que tu veux. Non, là, vraiment, ils sont tous, d'ailleurs, ils prennent même des hormones de croissance. Mais essayez de regarder la taille de leurs testicules dans les maillots. Ils sont toujours tout petits. Pourquoi ? Parce qu'à force de prendre de la testo, le corps dit aux testicules, mais arrête de travailler, j'ai trop d'hormones.
Il arrête.
Et en fait, il devient tout petit, comme des pois chiches.
Et c'est donc pour ça qu'il y a une corrélation entre la taille de tes testicules et la testostérone.
Plus elle est élevée, de façon artificielle, par le traitement, plus les testicules vont...
Mais
vont
c'est valable diminuer. Aussi naturellement, quelqu'un qui ferait plus de muscu, de sport, qui mange mieux, ses testicules vont grossir.
Oui, ça par contre, on peut augmenter naturellement la testostérone sans aucune conséquence, au contraire, c'est positif.
Ouais, donc vas-y, comment on fait alors?
Les cinq trucs qui marchent le mieux.
Vas-y.
Premièrement, pas de graisse au niveau du ventre. La graisse abdominale, le tour de taille. Plus on accumule de graisse au niveau du ventre, plus notre taux de testostérone va chuter. Simplement parce que la graisse au niveau du ventre transforme la testostérone en hormone féminine. C'est pour ça que les gens qui ont beaucoup de ventre, pendant très longtemps, en général, il y a un peu de sein qui commence à pousser quelques années plus tard. Ils perdent un peu les poils sur les jambes. Bref. Donc, on ne prend pas de graisse au niveau du ventre. Deuxième conseil, on fait du sport en alternant endurance et musculation. Pas juste de l'endurance. La musculation fait travailler et sécréter.
Endurance, à partir de combien de temps?
Endurance, on va considérer endurance par exemple une ou deux fois par semaine, tu vas faire une marche à pied sportive ou une course à pied pendant 35-40 minutes.
C'est ça suffisant. Aide la testostérone.
L'activité physique, toute activité physique.
Moi par exemple aujourd'hui,
va
je fais en moyenne, en fonction de où je suis dans le monde, mais entre 2 à 5 séances de muscu. Et je fais pas
c'est
de
suffisant.
Mais je fais pas par exemple de footing ou
mais tu t'échauffes avant ou après la muscu.
Je m'étire.
Tu t'étires et tu fais de la marche dans la vie de tous les jours.
Ouais.
Mais ça
m'apporterait plus de faire 30 minutes de course.
Non, c'est plutôt la muscu. Par contre, on dit l'endurance parce qu'on s'est rendu compte que ça permet d'éviter cette fatigue qu'on a excessive quand on fait 5-6 séances de musculation par semaine.
Ok.
Ça peut fatiguer et au bout d'un moment, on travaille pas correctement.
Pourquoi? Donc, parce que ça muscle le cœur, c'est dans ce sens-là?
Non. Les muscles peuvent fatiguer. Okay. Par exemple, faire 5-6 séances de musculation, sauf si on est à un niveau de musculation professionnel.
Ouais.
On peut fatiguer et donc ça devient un peu contre-productif de faire certaines séances à moitié ou quelque chose comme ça.
Donc il vaut mieux faire le ventre.
Pas de graisse au niveau du ventre. Donc, faire attention à l'alimentation.
Ok.
Deux, sport avec renforcement musculaire, musculation. Trois, bon sommeil.
Ouais.
Un bon sommeil. N'oublions pas que c'est pendant les phases de sommeil profond que notre système intérieur se met en mode reset. Et qu'un mauvais sommeil va fracasser toutes nos hormones, toutes nos sécrétions hormonales. D'ailleurs,
mauvais sommeil, c'est dans le sens sommeil profond ou durée du sommeil?
Les deux. Durée de sommeil suffisante et sommeil correct. Durée suffisante, c'est vous qui décidez. Hein, oubliez le mythe de 8 heures.
Ouais, c'est chacun sa durée.
Si vous, en 6 heures, vous êtes en forme en 6 heures. Mais de ne pas... C'est-à-dire, si vous réveillez tous les matins avec la sensation d'être fatigué, c'est que vous ne dormez pas correctement, vous ne dormez pas suffisamment. Donc, troisième truc, sommeil.
Ouais.
Quatrième truc, s'exposer à la luminosité, en particulier la luminosité du matin.
Ok.
Parce qu'on sait qu'il y a un lien entre la luminosité et les sécrétions hormonales.
Ça marche derrière une vitre ou pas?
Oui. C'est pas du bronzage.
Ok.
Au contraire. Par exemple, on peut travailler le matin en étant à côté d'une vitre où il y a de la luminosité.
Okay.
Ben, c'est toujours mieux que
le reste. C'est lié à quoi? C'est le fait que l'œil perçoive de la lumière?
Alors, on pense que c'est lié aux sécrétions de mélanocortine.
Okay.
D'ailleurs, tu sais, les gens qui font parfois des dépressions saisonnières, ouais. qui systématiquement en novembre-décembre, jusqu'à mars-avril, ils sont pas bien, ils ont envie de voir personne. On appelle ça les troubles affectifs saisonniers. Mais on sait qu'il y a un lien avec ça, la luminosité et les sécrétions hormonales.
Et donc, les lumières qui sont, les lampes qui permettent de créer une lumière assez, assez blanche le matin.
La luminothérapie. Les lampes de luminothérapie. Par contre, si vous en faites, il faut que ça soit un minimum 10 000 lux. Alors, vous regardez, c'est marqué dessus. 10 000 lux. Là, on sait que ça va donner suffisamment d'impact.
Mais c'est pas, on n'a pas besoin de la regarder.
Non, il suffit qu'elle soit. Moi, j'en ai une.
Ok.
J'habite à Lille. Donc autant te dire que.
Donc, tu en as besoin.
J'ai pas la luminosité tous les matins. Et donc, j'ai une lampe de luminothérapie et tous les matins, pendant le café, je regarde, je travaille un peu sur l'ordinateur, elle est à côté.
Et c'est combien de temps, 15 minutes?
Alors, on dit que 30 minutes est largement suffisant.
Ok.
Mais on peut laisser autant qu'on a envie.
Ok.
Donc, ça, on a dit pas de graisse au niveau du ventre. Musculation, bon sommeil. S'exposer à la luminosité et ne pas manger des trucs industriels. Pourquoi? Parce que ça contient beaucoup, beaucoup de molécules qui sont des bloqueurs endocriniens, en fait.
Et ça va jouer sur la testostérone.
Oui, c'est des perturbateurs endocriniens. Et le pire, un plat préparé industriel qu'on réchauffe dans un truc en plastique au micro-ondes.
Ça, c'est
là,
parfait,
vous êtes
ça.
Sûr d'avoir, de bloquer votre système hormonal de façon...
Donc, si tu as envie de baisser ta testostérone, tu prends du plat industriel que tu mets au micro-ondes plusieurs fois.
Voilà, là, si tu as trop de testo, tu veux te calmer, tu achètes un truc surgelé bien pourri, le mets dans un tupperware, tu le chauffes au micro-ondes et tu te fais plaisir.
Ouais, tu le réchauffes plusieurs fois.
Et tu manges ça dans le noir pour pas être exposé à la lumière du soleil. Et à 3h du matin, voilà. T'as le combo gagnant pour fracasser ta testo.
Est-ce qu'il y a d'autres paramètres que la testo qui boostent la fertilité?
Oui, la testo, elle booste pas la fertilité, elle est parallèle à la fertilité. Ce qui booste la fertilité, c'est plutôt le fait justement de s'éloigner des toxiques environnementaux, les gaz d'échappement. C'est-à-dire, si on peut aller faire une balade dans la forêt ou au bord de la mer une ou deux fois par semaine, c'est top.
Ouais.
Et les oméga-3, pour la fertilité, c'est vraiment les oméga-3.
Donc, poisson.
Sardine.
Ok.
Saumon. Macro, vous alternez, avocat.
Le thon?
Le thon, moins. Il contient moins d'oméga 3.
Donc, les poissons blancs non plus, du coup.
Voilà.
Faut éviter les poissons. Enfin, c'est pas les poissons blancs idéal.
C'est plutôt les poissons gras.
Ouais.
Puisqu'on a besoin de la graisse de ces poissons.
Saumon, sardine.
Saumon, sardine, macro. Ensuite, vous avez les avocats, les amandes et les noix. C'est ce qu'on conseille d'augmenter. Alors, faites pas comme mon beau-frère, s'il nous écoute. Je sais pas d'où il a été chercher ça, sauf qu'il m'en a pas parlé. Un jour, ma sœur, elle me dit, mais je pense qu'il a chopé le diabète. On a fait des analyses, des prises de sang. Il est diabétique. Mais d'où il est diabétique? Il n'y a pas d'antécédent. Et en fait, pour avoir des enfants, il a lu qu'il fallait bouffer beaucoup de miel. Donc, je pense qu'il bouffait un pot de miel par jour. Et je sais pas d'où il avait entendu ça. Il était à la limite du diabète et ils avaient toujours pas de gamin. Tu vois?
Donc pas voilà, le miel,
pas
c'est
le
pas
le miel, c'est... pas le sucre. Au contraire, le sucre, on le diminue.
T'as des anecdotes comme ça, des fois dramatiques sur Internet de gens qui ont appris une astuce, un truc qu'ils l'ont utilisé. J'avais entendu une histoire qui était pour le coup pas drôle d'une personne qui... parce qu'il y a un cliché sur Internet comme quoi quand il y a une blessure au feu, je crois, enfin, tu dois mettre du miel. Et t'as une personne qui a mis du miel sur toute une blessure et ça a donné...
Ça a collé horrible.
Ouais, ça a donné une catastrophe.
D'ailleurs, on parlait de testo. Sur Internet, il y a plein de produits vendus censé booster la testo.
Ouais.
Dans 90% des cas, ça marche pas, en fait. C'est de l'arnaque. Et les 10% qui restent nous embêtent plus parce que là, ça contient vraiment. Ouais. C'est des contrefaçons. Et vous savez pas ce que ça va donner. D'ailleurs, quand on se dope, pourquoi on dit qu'il faut pas se doper? T'en as entendu parler des sportifs qui sont dopés, qui ont fait des infarctus à l'âge de 35 ans, qui ont fait des arrêts cardiaques, etc. Parce que quand on booste trop notre testo, on a le sang qui devient épais. Et donc, les artères peuvent se boucher et donc faire une attaque cérébrale ou une attaque cardiaque. Quoi. Donc, les trucs sur Internet.
Mais donc, booster la testostérone, mis à part avoir sur ton bilan sanguin un déficit.
Une preuve qu'on en manque.
Il n'y a pas vraiment de sens.
Aucun intérêt.
Tout à l'heure, tu disais que justement, il y a un peu cette baseline, cette ligne de base de testo. Et donc, si je la booste, du coup... est-ce qu'on considère que c'est un peu l'homéostasie, c'est-à-dire c'est dans le sens que mon corps il va vouloir réguler, arrêter de produire,
oui,
c'est dans ce sens-là.
Oui.
Mais du coup, cette baseline, elle est différente d'un individu à l'autre?
Oui, c'est une zone d'ailleurs, c'est pas une ligne. C'est une zone, on considère que ça doit être en nanogrammes entre 2,5, 3 et 8. Sauf que certaines personnes à 3 vont être en super forme, d'autres à 3,5 vont pas être en super forme. Tout dépend de leur taux de base justement initial.
Mais comment c'est... je sais par exemple si, comment...
On le sait pas. C'est pour ça que je fais plusieurs prises de sang.
Si je te montre là mon test sanguin, à quoi tu vas savoir que j'ai un déficit ou pas de testostérone?
On a sachant que je suis dans l'âge.
Sachant que je suis dans une norme classique. Ouais.
On a des tableaux, des normes par rapport à l'âge. Par exemple, quelqu'un qui a 4 nanogrammes de testostérone, s'il a 35 ans ou 70 ans...
Oui, c'est pas pareil.
C'est pas pareil. Celui qui a 35 ans, on va dire, ah, c'est bien, mais c'est limite. Celui qui a 70 ans, on va dire, oh, c'est trop.
OK.
Donc, tu vois, c'est interprété en fonction d'un tableau qu'on connaît, en fonction de l'âge, et c'est interprété dans le temps, parce qu'on peut avoir des baisses transitoires de testostérone. Donc, c'est jamais sur une seule prise de sang. Ça peut monter, descendre, remonter, redescendre.
Ouais.
Et donc, des petites variations peuvent arriver sans que ça soit le signe qu'on en manque, en fait. En tout cas, oui, c'est un gros sujet. Et je redis, pour les personnes qui nous regardent, quand on a des difficultés sur le plan sexuel, quand on est fatigué, etc., oui, je sais que le réflexe de dire, c'est peut-être que je manque de testostérone et on va vérifier. Par contre, sachez que dans la majorité des cas, l'explication n'est pas au niveau de testostérone. C'est au niveau du sentiment de bien-être, c'est au niveau du burn-out, c'est au niveau du stress de la vie quotidienne, angoisse de performance, au niveau du tabac, maladie qu'on a, chronique, on n'a pas fait attention, qu'on a un prédiabète, etc., etc. C'est plus ça qui donne des problèmes sexuels que la testostérone en elle-même.
Ok. Sur l'éjaculation précoce, c'est quoi les conseils qui marchent le mieux pour aider quelqu'un à se libérer de ça?
De penser à la belle-mère pour baisser l'excitation. Tu sais que c'est un truc qui est très fait. On a fait une enquête avec Charles.co, une enquête IFOP, et on a demandé aux mecs, quelles sont vos astuces pour ne pas avoir une éjaculation rapide? On voulait savoir, mais comment ils font ces gens qui consultent pas, qui se débrouillent comme ils peuvent?
Donc la belle-mère.
Alors il y avait le fait d'éjaculer une première fois avant le rapport,
okay.
De pas aller à la chasse le fusil chargé, quoi.
Mais donc avant le rapport, le jour même, deux heures avant?
Un peu avant, quelques heures avant. D'ailleurs, c'est un gros truc. J'avais fait une vidéo dessus sur la chaîne YouTube. Parce que beaucoup de gens disaient, est-ce que c'est une bonne idée avant un date d'éjaculer avant d'y aller, justement pour pas être super excité? Donc il y avait cette méthode-là, il y avait le fait de penser à une facture, à la belle-mère, de penser à des trucs comme ça.
Tu fais un papier peint de facture.
C'est ça, tu décroches. Tu vois, avec la photo de quelqu'un que t'aimes pas en plein milieu, par exemple. Tous ces trucs-là, ça marche pas. Voilà, okay. C'est pas terrible. On laisse tomber. Et au pire, si ça marche, en fait, ça marche, mais ça vous a gâché le moment quand même. Hein. L'idée, c'est de profiter. Alors, les choses qui peuvent marcher, c'est premièrement prendre conscience que c'est pas l'éjaculation qui est rapide, c'est l'excitation qui est rapide.
Ok.
C'est-à-dire, l'éjaculation en elle-même ne pose pas de problème, elle fonctionne très bien.
Ouais.
C'est l'excitation qui monte trop vite. Et donc, de travailler sur le fait, est-ce que j'ai une émotivité rapide pour tout? C'est-à-dire, quand il y a un truc qui me plaît, je suis toujours super content, est-ce que je fais tout vite, etc. D'ailleurs, souvent, les mecs qui ont une éjaculation rapide, c'est souvent des mecs hyper efficaces en dehors. Parce qu'ils réfléchissent vite, ils avancent vite. Il y a un truc à faire, mais leurs collègues les empêchent d'avancer, ça les frustre, ça les énerve.
Les femmes qui nous écoutent vont se dire en draguant maintenant qu'il est un peu trop efficace.
Tu sais qu'on a fait des études.
Il gère trop bien ses projets, donc.
Non, en fait, c'est le côté speed, droit au but.
Okay. C'est par donc exemple. Il y a plein d'entrepreneurs qui doivent pas avoir oui. des.
Ben oui. Et quand on leur dit, tu dis, mais ouais, maintenant que vous le dites, docteur, en fait, je fais tout vite. Sauf que je pensais que c'était.
J'ai 3 minutes.
D'ailleurs, tu vas rigoler et les gens qui nous écoutent, ils vont se reconnaître, en particulier mes patients, parce que je leur fais la remarque. Quand on finit la consultation, une téléconsultation, éjaculation précoce. On termine la téléconsultation. 8 fois sur 10, le patient, il dit, ah, j'ai hâte de commencer. J'ai, ah, le mot hâte faudra à l'avenir. Ah, je suis pressé de recevoir l'ordonnance. Je vais m'y mettre tout de suite. Non, mais justement, on est en train d'apprendre. Voilà. Et en fait, c'est des personnes qui sont vraiment efficaces. C'est-à-dire, il y a un truc à faire, hop, on le fait.
On
et leur cerveau, il a appris que, on fait tout bien vite. N'oubliez pas que dans notre cerveau, l'acte sexuel est prévu pour la reproduction. Donc, un acte sexuel bien fait, c'est je bande, je jouis, je passe à autre chose. Et les personnes qui font ça pour tout, c'est il y a ça à faire, allez, clac, 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 je passe à autre chose. Bah, ils ont plus de risques d'avoir une éjaculation rapide parce que leur cerveau fonctionne comme ça.
Et donc, ça veut dire que dans l'autre sens, ça marche aussi? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont plutôt chill, oui. tranquilles,
Oui.
On profite, on prend le temps. Du coup, vont aussi être plus facilement comme ça. Hein.
Et exactement. Et d'ailleurs, les hommes, quand
donc
on
Bob
les
Bob Marley, ça devait être.
Ah oui, lui. lui, c'est. Ah bon, t'as déjà fini? Et les hommes, d'ailleurs, qu'on soigne pour l'éjaculation rapide, on a fait un programme qui s'appelle Time pour apprendre des techniques pour l'éjaculation rapide. Ouais. Tous les hommes qui terminent le travail, qui disent ça va mieux, disent, mais en fait, ça va mieux pour plein d'autres choses. Par exemple, avant, ma femme était en train de me parler. Pendant qu'elle me parlait, j'étais en train de penser à ce qu'on va faire après. Là, elle me parle et je parle avec elle. Et elle apprécie. Avant, c'était, allez les enfants, faut partir. Et s'ils étaient pas prêts à la minute, ça y est, ça partait dans tous les sens, ça criait et tout. Bon, bah, là, il faut attendre 5 minutes. Bah, j'attends 5 minutes, quoi. C'est pas la fin. Avant, j'avais à peine fini de manger que j'étais déjà en train de faire autre chose. Maintenant, je sais prendre le temps de faire mon rototo. Puis après, je me lève, je vais travailler. Donc, c'est un changement vraiment de savoir prendre le temps de façon générale. Et puis, il y a aussi le périnée. On fait le test ensemble. Allez, vas-y.
Je pourrais t'en parler. J'ai des anecdotes très drôles sur le périnée.
Allez, vas-y, on va faire le périnée. Là, par exemple, si on dit si tu te concentres sur la zone qui est entre le testicule et l'anus. OK? Et les mecs qui sont là, vous faites pareil. Hein. Derrière la caméra, là, voilà. Vous prenez l'air du chien. Vous savez, le chien qui est en train de faire caca. Vous voyez la tête qu'il a, comme ça, il est concentré. Ben voilà. On se concentre comme un chien qui fait caca.
On vous filme, hein. On va déplacer les caméras.
Voilà. Il est concentré depuis tout à l'heure.
On va avoir un montage qui est pas dingue. On va avoir tout d'un coup des changements de cam qui... On mettra Quentin contrôler
Quentin
le périnée.
En train de faire caca. Non, on se concentre sur la zone entre les testicules et l'anus et on la contracte comme si on veut la relever vers le haut. Normalement, tu arrives à le faire tout de suite.
Ouais.
C'est bon pour vous les mecs? Nickel. Maintenant, concentre-toi sur la même zone et essaye de la pousser vers le bas. Tu dois te concentrer un peu plus, non?
Ouais.
Ouais. Et ben c'est le mouvement de pousser vers le bas légèrement qui retarde l'éjaculation et la contraction qui accélère. Or, on a un réflexe naturel plutôt de contracter et il faut apprendre à le faire. Donc, c'est le genre de technique qu'on peut apprendre pour pouvoir le reproduire pendant les rapports sexuels. Et l'idéal, d'ailleurs, tiens, on va faire un dernier test. Si l'un de vous deux réussit le test, je lui offre un truc. Qui peut réussir?
Donc, baissez votre pantalon. Voilà. Du coup.
Allez, un test. Toutes les personnes qui nous regardent, même les femmes, qui peut réussir à contracter l'anus comme si on veut se retenir de faire caca, sans que ça bouge devant au niveau du pénis ou au niveau de la zone de la vessie de la vulve.
Donc
tu contractes l'anus comme si tu veux te retenir
sans,
de faire
sans
caca.
Sans que ça bouge au niveau
sans
du pénis.
Sans que ça bouge devant. Ouais. Okay. Sans que ça se contracte devant. C'est dur, hein?
Ouais, c'est dur.
C'est super. Bah, ça, on peut l'apprendre à le faire et donc on peut utiliser.
Mais en tout cas, je confirme que ça marche. On en parlera dans l'autre épisode qu'on fera ensemble. Mais j'ai des anecdotes très drôles parce que j'avais lu un livre quand j'avais 19 ans sur ça. Et donc, il y avait plein d'exercices sur le muscler son périnée. Donc, déjà, je me souviens vraiment du moment où dans le livre, il y a le schéma anus, machin. J'étais tout seul chez moi en mode.
Tu découvres
le truc. Il est où le périnée? Et effectivement, d'essayer de contracter l'anus, Et donc, il y avait tout un tas d'exercices. Et il y a cette scène, il y a deux scènes qui moi m'ont marqué, que je raconte souvent. C'est que la première, c'est je passais toute ma journée de cours à essayer de contracter le périnée. Et donc du coup, ça donne des têtes un peu bizarres quand le prof.
Comme un chien qui fait caca. Voilà. Donc,
je pense que j'avais des attitudes bizarres pour le prof. Et l'autre scène.
Il devait dire, il a fumé, lui. Il a fumé le garçon. Mais il y a ailleurs.
Et l'autre scène qui m'a marqué, c'est que je me souviens plus si c'était le livre qui conseillait de le faire ou si je le faisais aussi là. C'est pendant du coup que j'allais aux toilettes, les toilettes pour uriner debout en tant qu'homme, et ben j'essayais d'uriner en pointillé. Donc comme ça.
Et donc
j'ai des moments comme ça où j'ai le mec d'à côté
qu'est-ce qu'il fait
qui me regarde en mode il est vraiment bizarre quoi.
C'est ça. À son âge avoir des problèmes de prostate quand même.
Mais surtout que sinon c'est vraiment le côté
Et il joue le gamin, il joue.
Mais ça m'a vraiment aidé, ça faisait une vraie différence.
Nous, les mecs, on découvre qu'on a un périnée quand on a un problème, en fait. On n'est pas conscient de l'avoir. Et donc, pour revenir sur l'éjaculation précoce, c'est tout un travail sur le fonctionnement mental, de savoir prendre son temps, de savoir apprécier le trajet, pas l'arrivée, en tout, sexuellement et en général, et en même temps, de savoir contrôler ses muscles au niveau du périnée.
Trop bien, trop cool. Moi, en tout cas, c'était un échange passionnant. Je pense que ça va apporter beaucoup de valeur aux personnes qui nous écoutent.
J'espère.
Peut-être des questions rapides pour terminer.
Vas-y.
Quel mauvais conseil, selon toi, t'entends trop souvent sur le sujet de la sexualité? Quel t'es pas d'accord?
Ah. Ah, si.
Vas-y.
C'est le fait qu'il faut arrêter la masturbation pour être efficace sexuellement.
Okay.
Ça, c'est un conseil qui est très, très courant de nos jours.
Il est faux.
Voilà. Et qui est faux. C'est hyper variable d'une personne à une autre. Au contraire, la masturbation, on peut l'utiliser comme un moment thérapeutique. On peut l'utiliser pour apprendre à contrôler l'éjaculation. On peut l'utiliser pour apprendre à stimuler l'excitation mentale, par exemple. Si on se masturbe en mettant du lubrifiant et en stimulant très peu, sans trop appuyer, ça va nous obliger à développer le fantasmatique excitation mentale pour compenser le manque de sensation. Donc, on peut utiliser la masturbation.
Masturbation sans porno.
Oui, on parle de sans porno, ouais.
Ok. Toi, c'est quoi qui t'a... Parce que j'imagine qu'on ne devient pas sexologue par hasard. C'est quoi, en fait, qui, dans ton histoire, qui t'a amené à...
Tu sais, mes potes médecins, parce qu'on est en groupe, tu sais, quand tu fais médecine, les 6 premières années, t'es en groupe, t'es externe, interne, puis après, on commence à choisir nos spécialités. Quand mes potes ont appris ce que j'étais en train de partir faire comme spécialité, je t'assure, pendant plus de 10-15 ans, on m'a appelé zizilogue. C'est-à-dire même les médecins, ils disent, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? En fait, moi, ça m'a toujours passionné. Tout ce qui est de l'ordre de l'humain, comprendre l'être humain. D'ailleurs, il y a un truc qui surprend que peu de gens savent sur moi. Je voulais faire prêtre.
Wow. Alors,
à un moment, ça a merdé, j'ai fait sexologue. Tu vois, c'était mon objectif.
En tant que prêtre, c'est compliqué d'avoir des sujets de conversation là-dessus.
D'ailleurs, je te raconte pas le jour où j'ai appris à mon père, parce que je suis originaire du Liban. Mon père ma famille qui habite là-bas. Et apprendre à mon père, il me dit, mais, dis-moi, ça fait 10 ans que t'es en France, tu fais des études de médecine, mais tu fais quoi exactement? Et donc, même moi, avec tout mon métier de sexo, bah, c'était pas si évident que ça de dire à mon père, en fait, je vais m'occuper des problèmes sexuels. Donc, tu vois, on disait tout à l'heure que c'est toujours inconfortable, etc.
Parce qu'il y avait un peu un cliché dans un peu la figure paternelle.
Oui, puis il y avait ce truc de me dire, est-ce qu'il va comprendre que j'ai fait 10 ans d'études pour ça, quoi? Tu vois, il peut très bien me dire, bah, t'aurais pu me poser la question, je t'aurais expliqué comment faire, quoi. Pas 10 ans d'études pour perdre 10 ans de ta vie. Bref, c'est un sujet qui m'a toujours passionné, le fonctionnement de l'être humain. En vrai, quand j'étais en première année de médecine, il y avait une émission qui passait sur Europe 1 à l'époque, samedi soir à minuit. Tu vois, c'était vraiment caché, où les gens appelaient et parlaient de leurs problèmes sexuels. Et moi qui avais des insomnies à l'époque avec les études de médecine, bah, j'ai écouté et ça m'a intéressé. Puis après, c'est tout, les années passent. Et en fait, j'ai fait dans un premier temps un diplôme de fertilité, d'andrologie avec fertilité. Et c'est le professeur qui m'a dit, bah, écoute, dans le domaine de la fertilité, on pose souvent la question, est-ce que vous avez des relations sexuelles? Est-ce qu'il y a une éjaculation dans le vagin? Pour pas partir sur des problèmes alors que c'est juste ça qui va pas. Et le professeur m'a expliqué, moi je savais pas, il me dit, bah, écoute, t'es très à l'aise quand tu évoques le sujet. Les gens ont l'air d'être très à l'aise avec toi, ça a l'air de t'intéresser. Il n'y a pas beaucoup de médecins qui sont intéressés par ce domaine-là. Est-ce que ça te dit de continuer en faisant la médecine sexuelle et pas forcément continuer sur le domaine de la fertilité? Et il a eu le nez fin parce que ça m'a passionné et c'est comme ça que je suis parti là-dessus. En plus, à l'époque, il y avait déjà les recherches sur le Viagra qui commençaient. On savait que 10 ans plus tard, ça allait arriver. Sauf que ça, je l'ai appris plus tard. Le prof qui m'a conseillé ça, il se disait, mais quand ce médicament va arriver? Moi, j'ai aucun médecin dans mon équipe qui sait parler de sexualité. Et donc, je pense que c'était un peu aussi en me poussant dans ce sens-là, en disant, mais il va nous falloir des médecins. Et donc, c'est comme ça que je suis arrivé dans ce domaine et ça m'a passionné, t'as pas idée. Je me suis rendu compte qu'il y a tellement de fausses croyances dessus, tellement de choses qu'on ne comprend pas, tellement de trucs qui étaient encore à découvrir. Et je suis content, j'ai pu un peu à la fois donner des enseignements universitaires, participer à écrire des manuels de médecine sexuelle, d'installer une vision un peu différente des choses. On parlait d'éjaculation rapide, par exemple. Je fais partie des experts qui ont dit « l'éjaculation rapide n'est pas une anomalie, mais on peut la soigner », pour montrer que c'est juste un réflexe et qu'on peut le changer. Voilà, des dogmes comme ça qu'on a changé et que c'est pas le reflet, comme on disait dans psychanalyse. Ah, bah, c'est des mecs qui veulent priver leur partenaire de plaisir. Je t'assure, des théories jusqu'à aujourd'hui.
Tu peux t'aider.
Un truc de fou. On dit, par exemple, que l'éjaculateur précoce, ça serait une sorte de pervers sadique qui veut inconsciemment priver l'autre de son plaisir. Oula. C'est juste un mec qui contrôle pas son périnée, tu vois. Donc tout ça m'a passionné et donc c'est un peu le parcours par lequel je suis passé, fertilité, sexualité, Et j'aurais bien aimé faire encore une douzaine d'autres spécialités, mais je peux pas, j'ai pas le temps.
Ah, ça, je comprends. Moi, j'adore apprendre. Donc, à un moment donné,
il y a un moment où on se dit, focaliser. Faut se focaliser.
Si t'avais un message que tu pouvais écrire sur un panneau 3x4 ou envoyer une lettre à 1 million de personnes, tu peux marquer ce que tu veux sur ce message et les gens, voilà, le reçoivent, le prennent. T'aimerais marquer quoi?
Oui, c'est un message que je répète tout le temps sur ma chaîne. Quand on a un problème, en particulier un problème sexuel, qu'on se rend compte que les semaines, les mois passent et que tout seul, on n'y arrive pas. On ne reste pas seul face à ça. Tout seul, si on devait y arriver, on arriverait dans les premières semaines, premiers mois. Donc, on reste pas seul face à ça. On prend l'avis d'un professionnel, on consulte, on téléconsulte, mais on ne traîne pas ça pendant des mois parce que les conséquences, plus tard, sur notre bien-être, sur notre propre fonctionnement, sur notre état du moral, sur l'équilibre parfois du couple, sur l'isolement affectif, est énorme. Donc, si je devais écrire un message, ça serait celui-là. Si on a des problèmes, on reste pas seul face à ces problèmes, on demande de l'aide.
Trop bien.
Et être un homme, c'est pas ne pas avoir de problème. C'est savoir demander de l'aide quand il le faut.
Trop bien. Merci beaucoup.
Merci à toi.